Matinale officielle certifiée ISO 9002 du 99.1 du 102.4 et du 95.9 FM. Et oui, mesdames et messieurs, dames, bienvenue dans la matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Aïe, aujourd'hui, l'information principale de ce jour est que nous sommes déjà le jeudi 17 mars de l'an 2022. Et oui, ah, ça file et ça défile, comme j'aime à dire. Et ce matin, on prendra le temps de parler musique, voix, on parlera saison, on parlera organisation. On essaiera de titiller votre curiosité parce que jeudi, nous sommes en compagnie de Bruno Botterf. Bonjour Bruno.
Bonjour mon ami Damien.
Bonjour à toi Bruno et bienvenue dans les studios. Merci d'être matinal pour parler de cet événement à venir qui se déroule la semaine prochaine mais qui commence un peu avant en fait la semaine prochaine.
Non, ça commence lundi, c'est lundi 21.
Voilà, on ne dit pas de bêtises. On développera autour de ce sacre du printemps, mais je ne vais pas trop vous en dire, on va rester ensemble, on va développer tout au long de cette matinale sur cette belle organisation, celle de la semaine prochaine. Bruno Botterf en notre compagnie. Il y aura bien sûr du bon ton, il y aura de la bonne humeur, il y aura aussi peut-être des jeux de mots approximatifs ou des rimes pauvres. On verra dans cette matinale du matin qui va bien. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous êtes avec nous jusqu'à 9h sur l'antenne de Radio AGR et de Principe Actif et qu'on va essayer de vous faire passer un agréable moment. On démarre forcément par un petit titre de Sound Music, même si là, la matinale, elle sera consacrée sur un autre genre. Mais vous verrez, on n'a pas qu'un genre d'ailleurs. Prenez le temps, soyez curieux, restez avec nous. On démarre ça par contre, c'est une habitude, c'est établi, c'est obligatoire par un petit titre de Sound Music. Je vous dis pas l'année, mais on est au début des 70s et c'est juste énorme. Un trio féminin de dingue. Elles sont de Détroit et elles ont fait, je crois, qu'un album. Elles sont incroyables, mais vraies. Mesdames et messieurs, dames, vous êtes dans le Pirate Stamir. Merci de nous avoir choisis.
You know where to be found.
1971, ça vous fait du 51 ans d'âge, mesdames et messieurs, dames, rien que ça, pour cette formation de Detroit, voilà, Honeycone, H-O-N-E-Y, Cone, plus loin, l'album c'est Soulful Tapestry, sorti, je vous l'ai dit, en 1971, le morceau que nous avons partagé à l'instant, il a un nom improbable, mais du coup je suis un dingue et je vais vous le partager. C'était Don't Count Your Chickens. Ouais, alors si on fait la traverse...
Le truc des poulets.
Ouais, voilà, on ne faut pas les compter. Mesdames et messieurs, dames, on est sur antenne de Principe Actif, on est sur antenne HDR, peu importe des fois le sujet du titre, hein, même si c'est bien qu'il y ait du fond ou de la valeur intellectuelle. Mais voilà, quelle voix, quelle puissance, quelle harmonie, quelle organisation vocale. Bref, magnifique titre des Honeycone sorti en 1971.
Le pire.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
C'est nous et rien que nous, mesdames et messieurs, dames, sur l'antenne de Principe Actif et d'HDR depuis 8h pétante. Et ce, jusqu'à 9h, je vous l'ai dit, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Botterf. Bruno... On pourrait te faire un jour une émission consacrée le Champs-Élysées de Bruno. Il y aurait des choses à dire. Voilà, t'es un homme qui a voyagé, qui a un talent vocal peu commun. Mais en fait, on te reçoit comme on l'a fait en mois d'octobre. Hein, j'ai revérifié les dates pour parler d'un sacre du printemps, événement que tu co-organise.
Je l'ai inventé.
En tout cas, tu le portes.
Et ouais. Je le porte avec une équipe de bénévoles et d'amis autour de moi, ouais, en effet.
Qui fait la part belle au chant.
Pas seulement au chant. L'idée, c'est de créer au moment du printemps un événement musical qui mélange les genres. En fin de compte, on va pas vers le soul, mais on va vers des musiques qu'on appellerait classiques, mais pas seulement. C'est-à-dire, on fait aussi de la musique traditionnelle, de la musique du monde, de la musique contemporaine. Éventuellement de la danse, enfin, tout ça on l'aborde de manière un peu pas désorganisée, mais saison après saison, c'est un peu différent. L'an dernier, c'est vrai qu'on avait subi la crise comme tout le monde et qu'on a dû décaler le festival au mois d'octobre, en version condensée du 1er au 3 octobre. Cette année, on retrouve nos quartiers de printemps, si on peut dire, avec donc 5 concerts qui sont à Évreux.
Alors justement, c'est de manière un peu... j'ai envie de dire primaire, je me suis dit qu'en fait, ça correspondait quand même davantage à cette saison. Parce que dans les propositions, puisqu'on va, développer pour vous, à mes auditeurs et auditrices, j'ai pris le temps de jeter une oreille, de lire. Et en fait, il y a énormément de poésie en fait, dans la proposition sonore que tu nous amènes et que tu nous mets devant nous la semaine prochaine.
Oui, certainement. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis en même temps, la poésie, alors au sens... primaire du terme, a existé aussi beaucoup. Il y a énormément de poésie qui évoque cette période de l'année, qui est la période du chatoiement, de la remise en forme de toutes les données, en réalité, puisque... Et ça correspond bien. Cette année, on est en parfaite adéquation avec ce qui se passe. Enfin, plus de masques, enfin, un peu de liberté, un peu de plaisir, peut-être, même s'il y a d'autres choses qu'on voit poindre qui sont moins intéressantes outre frontières, mais quand même, on ne peut que se réjouir de ce moment, égoïstement, je dirais, et en profiter. Alors, oui, la poésie, par exemple, à la Renaissance, c'était une période de l'histoire de la littérature où il y a énormément de choses qui concernent le printemps. Il y a des recueils de musique, par exemple, qui s'appellent Le Printemps. Il y a un grand compositeur du XVIe siècle qui s'appelle Claude Lejeune, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, puisqu'on ne le pratique pas aujourd'hui, mais qui a écrit tout un recueil de morceaux musicaux à plusieurs voix qui s'appelle Le Printemps. Il y a des poètes comme Ronsard qui ont... Voilà, enfin, c'est intéressant à ton image parce que...
En tout cas, on est content que ça puisse exister. On aime à nous être auprès des festivals qui concernent ou en tout cas qui mettent en lumière les musiques actuelles. Mais en fait, tu as été animateur chez nous. Moi, tu m'as fait découvrir à l'époque des chants sonores que je connaissais peu. Ou en tout cas, je vais pas faire mon malin et faire spécialiste parce que je le suis toujours pas. mais voilà, ça... même quand en octobre je te recevais, il y avait à la fois dans cette proposition qui font quand même parfois la part belle à des œuvres passées. Il y a une réinterprétation. Il y a quand même, il y a, on, Peut-être qu'on conserve des bases existantes depuis des siècles, mais en même temps, on y amène sa fougue, on y amène son énergie. D'ailleurs, quand tu présentes certains des artistes que tu proposes la semaine prochaine, il y a aussi une incarnation de ces œuvres qui amène du coup déjà une proposition beaucoup plus contemporaine.
C'est vrai, mais je pense que c'est l'approche qu'il faut avoir par rapport à cette musique du passé, en fin de compte. La musique, évidemment, la musique que je pratique et qu'on pratique et qui est donnée dans ce cadre du festival, est de la musique écrite il y a longtemps. Mais c'est pas parce qu'elle a été écrite il y a longtemps. Tout d'abord, on doit savoir comment elle a été faite à l'époque. C'est important de connaître le contexte historique, mais aussi de savoir comment on s'approprie ces choses-là avec ses connaissances. Et ça me semble primordial, savoir que, par exemple, Bach a vécu à tel moment dans l'Allemagne du Nord, qu'il a eu des déboires, qu'il a eu une famille nombreuse, toutes ces choses font que on a quelque chose qui devient un petit peu réel. On peut pas faire abstraction de tout ça. On peut, évidemment. Mais c'est pas mal de savoir un peu tout ça, le contexte. Et puis, à partir de là, comment la musique était vécue au quotidien, pour ensuite voir un peu comment, nous, on peut la revivre dans notre quotidien du 21e siècle. Ça me semble une démarche saine, en tout cas.
Oui, parce qu'on va parler de musique classique, on va parler de grandes œuvres, on va parler, de voix, puisqu'on parle de musique vocale, c'est un terme utilisé.
Il y a beaucoup de musique vocale dans le festival.
Et musique du monde, parce qu'on parlera de l'Inde à un moment donné. Mais ce que je voulais te demander, est-ce que d'ailleurs, justement, tu présentes un peu, pour ne pas avoir eu encore la chance ni l'honneur d'assister à une présentation.
Il y a toujours un petit mot. Oui, toujours. C'est-à-dire que c'est toujours extrêmement convivial. Le premier concert, on fait un concert le 21 mars prochain, donc à la médiathèque d'Evreux. C'est un concert où il y aura un accueil du public, il y aura même une petite surprise, pas culinaire, mais en tout cas un petit accueil liquide.
Sympa,
liquide. Et tout ça me semble important. Et puis, quelques mots d'accueil, la présentation de l'artiste présent. Et puis, ce sont des choses qui... La convivialité me semble une des premières caractéristiques du festival. C'est-à-dire qu'on est un festival... On n'est pas riche, mais on fonctionne avec une bande de gens et de bénévoles autour de moi, de façon très conviviale, très participative. On n'a pas des épaules extrêmement larges, mais on a des idées nombreuses. Et ça me semble bien plus important en réalité.
Alors tu parlais de la médiathèque d'Evreux, qui a fêté ses 20 ans il y a peu. Qui est un bel endroit.
Tout à fait.
Je me rappelle très bien que moi, au mois d'octobre, on tout se concentrait dans un seul et même espace.
Saint-Aurin.
On parlait de l'église de Saint-Aurin. Là, en l'occurrence, il y a des petites incartades, j'ai envie de dire, géographiques.
Ouais, c'est une bonne idée. En effet, on a réussi et on essaie chaque année d'aller dans des lieux qui ne sont pas les lieux habituels des concerts hébroïciens. On a fait il y a quelques années des concerts dans la crypte archéologique
du musée.
À plusieurs reprises, on a fait des concerts dans les salles du musée. Alors après, tout dépend du public qu'on attend. Alors la salle n'est plus disponible maintenant, la salle d'archéologie, mais on a une audience qui est plutôt dans la croissance plutôt que dans la décroissance, ce qui fait que les salles sont souvent petites. Mais on cherche toujours des lieux. Et cette année, on a réussi à établir un partenariat grâce à Gilles Leblond et à la médiathèque, un partenariat pour un concert d'ouverture dans le Grand Hall qui permet d'accueillir une bonne 120 personnes. Et c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Et ce concert qui malheureusement est complet.
Ouais, voilà, on peut pas trop donner envie,
il ouvre quand même le festival. Est un concert consacré à Jean-Sébastien Bach. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le printemps, c'est le 21 mars, mais c'est aussi la naissance officiellement de Jean-Sébastien Bach. Il y a deux calendriers, un dit 31, l'autre 21, moi je me tiens au 21, pour dire que c'est son année de naissance, et du coup, Jean-Sébastien Bach, qui est pour moi un des grands compositeurs de la musique classique, on essaie de le célébrer chaque année. Et donc, à chaque édition, il y a un concert concernant Jean-Sébastien Bach, et cette année, ce sont les suites pour violoncelle.
Deux secondes, parce que je cherchais, bon alors c'est complet, Elena Andreev, j'ai regardé un petit peu, mais c'est quoi une suite? Parce que c'est présenté ainsi, suite de Jean-Sébastien Bach.
Oui, tout à fait. Alors la suite, c'est un modèle de composition musicale qui est apparu à la Renaissance et surtout à la période baroque, c'est-à-dire au XVIIe siècle, tout début du XVIIIe siècle, et qui consistait à enchaîner des pièces de genres différents, des morceaux différents. un menuet, souvent des danses, une gigue, une gavotte, un passe-pied, une sarabande, une passacaille, des morceaux qui sont des danses qui étaient codifiées dans le passé et qui sont regroupées et qui permettent d'avoir une alternance de mouvements rapides, de mouvements lents et tout ça avec une unité de tonalité.
Une liaison entre les uns.
Exactement, entre les 5 ou 6 mouvements de la suite, il y a simplement une unité tonale. C'est-à-dire qu'on décide qu'on est en do majeur ou en fa majeur ou en sol mineur et tous les morceaux sont avec des structures différentes, plus ou moins rapides, mais dans la même tonalité. Et donc, il y aura une suite en sol, une suite en fa, une suite... Et Bach, il a écrit 6 suites pour violoncelle.
Alors là, en l'occurrence, on a une violoncelliste...
De carrière internationale. Ouais, c'est une extraordinaire violoncelliste, une amie, et qui joue et qui est première violoncelle dans l'ensemble qui s'appelle Les Arts Florissants, qui est un ensemble assez médiatique, qui est assez connu. Elle fait une très belle carrière et elle a enregistré ses suites pour violoncelle. Elle a fait 2 disques qui sont parus il y a quelques années. Et on pourrait peut-être écouter un petit peu
C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Voilà. Alors, on écoute un extrait tout de suite maintenant.
Le prélude de la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach par Elena Andreev.
C'est captivant.
Bah écoute,
c'est captivant.
Je crois qu'elle, dans l'interprétation d'Elena Andreev de ce prélude de la première suite pour violoncelle, seule de Bach, il y a ce côté que j'évoquais tout à l'heure où on parlait de la suite. Et en fin de compte, il y a ce caractère dansant qui, même sur un mouvement, on a entendu cette suite-là. On l'a entendu par des violoncellistes extrêmement lentement. Là, il y a quelque chose d'extrêmement fluide, extrêmement aérien, extrêmement soulevé. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Et ça, c'est aussi... On parlait de musique classique tout à l'heure et de renouveau et d'actualisation. C'est-à-dire que les gens se posent des questions par rapport à l'interprétation. Si ça s'appelle menuet ou si ça s'appelle je ne sais quoi, il y a une raison. C'est pas un truc. La musique classique ne doit pas être enfermée dans quelque chose de conservateur ou de classique justement, mais au contraire quelque chose de qu'on doit tout le temps imaginer comme nouveau en réalité. Il faut tout le temps réactualiser le vocabulaire.
Tu me disais aussi au micro que alors là, c'est une violoncelliste de renommée internationale. Hein, c'est une virtuose. Oui. Elle jouera seule. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que à la fois cette œuvre est une œuvre qui a été écrite pour un seul instrument, ce qui était déjà assez rare à l'époque, c'est ça, hein, que tu
relativement
me faisais
entendre. Oui.
Et qu'en plus de cela, mais en fait, comme le violoncelle est un instrument qui a évolué, on ne sait pas vraiment si c'était pour un violoncelle au départ.
Ouais, c'est-à-dire que le violoncelle n'était pas l'instrument qu'on connaît maintenant.
Aujourd'hui, ouais.
C'est-à-dire, voilà, il évoluait, il a évolué. Il y a plusieurs... Les suites ne sont pas écrites de la même teneur, de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui sont écrites avec un instrument plus aigu, en fin de compte. Donc, peut-être pas le même instrument, et c'est marqué pour basse de violon. Et en réalité, c'était cet instrument qui existait. Il y a même des gens qui ont fait des expériences pour imaginer un instrument qui s'appelait la viola da Spala, qui est un instrument intermédiaire, qui est comme une espèce de très gros alto ou petit violoncelle qu'on tenait à l'épaule. Et visiblement, c'est un instrument qui était en usage au XVIIe en Allemagne. Donc, on ne sait pas, mais malheureusement, on n'a pas de traces de tout ça. On a simplement les partitions qui restent et qui ont été regroupées sous forme de 6 suites qui s'enchaînent. Bon, on se dit, ben voilà, on va les jouer au violoncelle. Et le violoncelle a changé. C'est-à-dire que le violoncelle de l'époque de Bach n'avait pas de pic. On ne posait pas le violoncelle, on ne le tenait pas de manière extrêmement tonique comme un camionneur. Voilà, c'était pas ça. C'était un instrument beaucoup plus léger qu'on tenait juste entre les jambes. Les cordes n'étaient pas en métal ni métallisées, mais elles étaient en boyau, évidemment. Ce qui fait que le son est plus léger, et c'est ce qu'on entend dans l'interprétation d'Elena Andreïev, c'est qu'elle n'appuie pas de manière extrêmement volontaire sur les cordes, elle laisse l'instrument respirer. Et ça, ce sont des choses importantes, importantes.
Merci pour cette explication de texte concernant la Elena Andreïev. On rappelle, elle sera à la médiathèque. C'est complet. Désolé.
C'est complet. Elle fait un atelier l'après-midi. Par contre, ça, c'est peut-être pas totalement complet. Il faut prendre contact avec la médiathèque. Il y a un atelier pour les enfants tout petits.
Chouette.
De 0 à 8 ans. Qui a lieu, je crois que c'est à 17h. Je pense qu'en prenant contact avec la médiathèque,
mieux,
il doit rester
déplacé.
Ça,
ouais.
Ça permettra peut-être aux parents qui ne peuvent pas être là au concert le soir d'accompagner leurs enfants et d'entendre quand même Elena Andreïev parler.
De belles petites nonnes,
voilà,
les esgourdes de nos pitchounes. C'est cool.
Ouais, super. Et il y aura ça, on renouvellera l'expérience pour le concert du vendredi.
Mortel. Alors justement, j'ai pas lu l'ensemble, mais j'ai lu l'ensemble. Je me rappelle plus. J'ai pas le feuillet moi à côté de où est-ce qu'on va ensuite.
Eh bien, on se retrouve le jeudi. Le jeudi, mais cette fois-ci, on quitte la médiathèque pour Saint-Aurin, qu'on va utiliser donc trois soirées, le jeudi, le vendredi et le dimanche, pour trois concerts de musique vocale. Le seul concert de musique instrumentale, c'était le lundi, avec les suites pour violoncelle. Tous les autres concerts, en fin de compte, utilisent la voix, d'une manière ou d'une autre. Ce concert du jeudi soir, ce sera un concert autour de Purcell, Henry Purcell, qui est un compositeur anglais du XVIIe, et qui a écrit des pièces, des morceaux, mais pas, il n'est pas le seul à avoir écrit ça, qui traitent de la folie. Alors, folie psychiatrique, internement, choses comme ça. C'était une chose qui travaillait beaucoup les gens à l'époque, et des gens ont écrit des textes, et des compositeurs, comme Purcell, comme Eccles, comme Daniel Purcell, son fils, ont écrit aussi des pièces sur cette thématique-là. Et donc, il y a tout un répertoire qui existe de musique vocale et instrumentale qui traite de cette folie, qui s'appelle des mad songs, chants de folie. Et il se trouve que David Chevalier, qui est un des instrumentistes qui joue dans ce concert-là, les trois interprètes sont Anne Maguette, qui est une soprano française mais d'origine anglaise, qui a déjà travaillé assez souvent avec moi et avec Ludus Modalis, David Chevalier et Bruno Elstroffer. David Chevalier est lui-même instrumentiste de musique ancienne, donc il joue du luth et du théorbe, mais il joue aussi de la basse électrique, il écrit de la musique beaucoup plus moderne, et il s'intéresse beaucoup aux musiques actuelles. Ce qui fait qu'il a travaillé sur ses pièces anciennes. Ça va exactement ce que tu disais tout à l'heure, Damien, de l'actualisation de cette musique-là. Donc, il a repris la musique du XVIIe. Anne Maguette chantera les mélodies telles quelles. La plupart du temps, elle ne modifie pas les mélodies de Purcell, mais les accompagnements partent toujours de la musique ancienne pour aller vers quelque chose de beaucoup plus moderne. Enfin, beaucoup plus contemporain. Moderne, je ne sais pas, là, parce qu'on peut dire que Purcell est moderne aussi. Il l'a été, en tout cas, à son époque. Et donc, c'est intéressant, c'est une espèce de jeu sur le passage d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, d'une période à l'autre, mais de manière complètement imperceptible, je dirais. Et ça, c'est bien, ce qui fait que c'est... C'est aussi peut-être une chose que l'on pratique dans le festival. La plupart des interprètes qui sont là ne sont pas que des spécialistes de la... Elena Andreïev fait beaucoup de musique contemporaine, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Là, ces interprètes-là, dont David Chevalier, font aussi beaucoup de musique actuelle. Marine Fribourg, dont on parlera après, fait aussi à la fois de la musique ancienne et de la musique contemporaine. Beaucoup d'interprètes ne se cantonnent pas à la musique classique, entre parenthèses.
J'ai lu dédicataire de pièces. C'est quoi dédicataire ?
Je ne vois pas de quoi tu parles.
J'ai vu dédicataire de pièces, c'est quoi ? J'ai essayé de retrouver l'endroit.
Alors, dédicataire, ça peut être dans l'idée que la pièce lui a été dédiée. C'est-à-dire, on imagine une pièce qui est écrite pour Bruno Botter.
Ça devait être ça.
Ça devait être ça. Bah voilà. Mais je ne sais pas si...
On oubliera que j'ai...
Alors, c'est peut-être pour le Requiem de Mozart que tu as lu ça.
Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un extrait sonore.
Oui, alors on va écouter une pièce. Ce n'est pas du Purcell, mais c'est de l'anglais. C'est du Dowland. Musique donc du 16e anglais. Et exactement le même propos. La musique mélange les genres. La mélodie reste celle de Dowland. Mais les instrumentistes délirent un peu.
Si Bruno, on rappelle un sacre du printemps. Oui, ça commence là, lundi, et ça s'achève dimanche. Une très belle proposition. On est curieux, on y va, on s'inspire, on y regarde, on y écoute. Eh, c'est le pire reste à venir. Thank you. Henry Purcell, Very Mad Songs. On parle du Sacre du Printemps, 5e édition, festival consacré à la musique classique, mais en fait à tout plein de chants proches ou très liés à cette question, où bien sûr l'organe vocal, peut-être le plus bel instrument de musique, est mis en lumière. Et on reçoit Bruno Botter, si vous venez de nous rejoindre, qui est lui-même chanteur. On dit quoi ? T'es un ténor, toi, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, je suis ténor. Ténor du matin, la voix est un peu plus grave, mais ténor du soir, ça monte.
C'est bon, ça. Ouais. Et du coup, on fait une spéciale sur cette proposition et ce festival à venir la semaine prochaine, en terre hébroïcienne. Vous le savez, sur Principe Actif et HDR, on passe de tout. Le mix des cultures, on l'a un peu shippé, là, à nos amis rouennais. Et c'est vrai que ça nous correspond tellement. Oui, on pourrait vous mettre les groupes locaux du coin, qu'ils soient punky rock, ouais, qu'ils soient reggae rasta ou qu'ils soient un peu à shipper, à choper. On pourrait les jouer. On les joue, on les met en lumière, mais on aime tout simplement aussi relever, voilà, des initiatives, des rendez-vous, et là c'est un très chouette rendez-vous à venir. Ce sera en l'occurrence le jeudi 24 mars, on sera sur la deuxième date, mais la première où on peut accéder, puisque la toute première, l'inauguration, elle est complète.
Il n'y a pas de problème de jauge, puisqu'on sera à Saint-Aurin, que c'est une église relativement grande, et qu'on va l'utiliser trois jours, pas consécutif, mais donc le jeudi, le vendredi et le dimanche, et qu'on peut accepter un public relativement conséquent.
Alors il y aura des versions différentes d'installations, de lieux et d'interprétations.
Oui, t'as raison. Le lieu, il s'appelle de la même manière, mais on ne va pas l'utiliser de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a deux concerts où on sera en rapport frontal, c'est-à-dire qu'on sera face au cœur de l'église. Ce sera pour ce concert Purcell, mais on mettra les gens autour des instrumentistes. On va se retrouver de façon assez, encore une fois, conviviale avec les trois artistes au milieu et le public autour. Ensuite, le concert du vendredi fera la chanteuse et la pianiste seront sous l'orgue, donc à l'entrée de l'église. Une acoustique différente, un petit peu plus mate, un peu moins généreuse que dans le chœur. Parce que le chœur de l'église, en général, c'est l'endroit où le prêtre ou les officiants travaillaient.
C'est là où il y a le plus de résonance, des coups, ça porte
et
plus.
Et les micros n'existaient pas, donc c'est un endroit où, normalement, qui, sur le plan acoustique, est le plus riche. Ensuite, la place de l'orgue n'est pas une mauvaise place, mais l'orgue, il est à 10 mètres de haut. Donc, de là-haut, ça marche très bien. Du bas, c'est très bien, mais c'est un peu plus mat. Et ça, je fais des essais. Je vais dans l'église, j'essaye. Dans chaque église, il peut y avoir 4 lieux différents et 4 acoustiques différentes. Et le dimanche, on se retrouvera sur les marches du chœur pour le Requiem de Mozart. Donc, j'irai trois configurations dans un même lieu.
Ce qui est mortel, c'est qu'on s'appelle Bruno Botter, on n'emmène pas un ghetto blaster, on y va avec sa voix.
Ça. Il n'y a qu'un seul concert qui est sonorisé. C'est le concert du samedi soir.
Bon, on revient à la prog. Le vendredi.
Le vendredi,
alors,
20h.
Un duo.
Ouais, duo. Alors, c'est le concert le plus classique
d'accord,
du festival depuis 5 ans.
Le plus épuré ou le plus classique ?
Le plus classique dans le sens le plus traditionnel dans l'image de la musique classique qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est un récital chant-piano. C'est romantique, c'est alors classique, parce que souvent c'est associé. Musique classique, ça fait un tout petit peu par un gars, mais on est dans quelque chose d'un petit peu que de pire. Enfin, voilà. Là, on est là-dedans, en fin de compte, dans un salon du 19e siècle, en Allemagne, avec une chanteuse, une mezzo-soprano, mezzo-soprano, de grands talents, et une pianiste, de grands talents également. Donc là, on casse déjà un peu les trucs. C'est-à-dire que ce sont des jeunes musiciens qui s'approprient un répertoire du 19e et essaient de voir comment ça a pu être fait à l'époque. Alors, elles vont parler... elles ont fait un programme qui s'appelle Lorelai, du nom de cette enchanteresse qui avait sur le Rhin et qui détournait les bateaux et qui faisait sombrer, voilà. Et c'est cet univers un peu onirique et comme ça, avec ces scènes de la nature, de la forêt, ces monstres, ces elfes, tout ça. Traité par un certain nombre de compositeurs du 19e allemand, que ce soit Schumann, que ce soit Schubert et Mendelssohn. Et elles font ce programme-là avec beaucoup de théâtralité. Marine est extrêmement présente, elle travaille beaucoup avec le public. Flore est une excellente pianiste. Ce sont que des instrumentistes et chanteurs qui ont une connaissance à la fois du répertoire très ancien et de la musique contemporaine. Marine à cette pratique-là, elle est chef de chœur exactement comme je le suis. Elle est multicarte, je dirais. Et Flore joue à la fois dans ce concert-là du piano, bien entendu, mais elle sait jouer aussi du clavecin, elle sait jouer aussi de l'orgue. Elle s'intéresse à tous les instruments à clavier, ce qui fait qu'il y a une espèce de vocabulaire extrêmement étendu et une liberté du coup par rapport à cette musique qui est un peu formelle et qui est un peu pas rigoureuse, mais bien formatée sur une période donnée, ça me permet d'aller beaucoup plus loin, d'ouvrir des portes. Donc ça, c'est un concert qui me semble tout à fait intéressant, qui, sur le papier, est classique et qui, en réalité, sera extrêmement public et théâtral.
On écoute ?
On peut écouter. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis. Je crois que c'est un extrait. Est-ce que tu as le nom de cette pièce ?
Lorelai. Tu m'as dit Lorelai, mais alors, du coup, qu'ai-je en proposition ? Tu m'as proposé. Je vais te dire les noms.
Je ne me souviens pas ce qu'on avait dit.
C'est Erkoning Carlo.
Ah là, le roi. Le roi. Oh, ouais,
c'est celle-ci ?
Ouais, tout
Erkoning
à fait.
Erkoning Carlo.
Carleveux. Ouais.
Là, je le dis moins bien que toi.
Leveux.
Et on revient sur le sujet derrière, parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur la langue allemande.
Très bien.
Parce qu'au départ, c'est pas la plus sexy.
On peut dire
non,
ça.
Non, c'est vrai. Non, mais il y a des accents qui chantent.
C'est vrai.
Il y a des formulations et des phrasés qui roulent.
Tu as
qui
raison.
Cool.
Tu as raison.
Et pourtant.
Ouais.
Et pourtant, on y revient. On est dans le pire reste à venir. C'est un sacre du printemps. C'est tout de suite. C'est maintenant. Un extrait sonore de la proposition du vendredi 25 mars. Qu'on vient d'écouter, Bruno, s'il te plaît.
Alors, c'est une pièce de Karl Leveux qui s'appelle Erlkönig, qui veut dire le roi des aulnes. C'est un texte de Goethe, qui est grand poète allemand. Donc, il faut savoir que cette musique, en fin de compte, est mélodique, évidemment. C'est de la musique vocale. Mais très, très souvent, dans l'Europe entière, hein, avant la musique, il y a les paroles, il y a un texte. Et même Bach, quand il écrit ses suites pour violoncelle, il pense à un discours. Il pense à des paroles sous-jacentes, qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas. Il y a toujours cette idée de la phrase et de la diction. Et ça, c'est une chose qui est présente dans toute la musique, je dirais, classique de qualité. La déclamation, la rhétorique. C'est-à-dire qu'un discours est construit et qu'un discours musical, il est construit comme une phrase et comme un discours poétique ou politique. Et voilà. Et donc, au XIXe siècle, en Allemagne, il y a une multitude de poètes comme Schiller, comme Goethe, enfin, c'est des gens qui écrivent des poèmes et ces poèmes sont repris par les compositeurs. Dans le cadre de salons, dans le cadre de rencontres entre eux, les mondes artistiques, littéraires et musicaux étaient extrêmement joints, mais c'était le cas aussi en France au XVIe ou au XVIIe. Il y avait ce qu'on appelait la Pléiade, par exemple, où Costelet pouvait rencontrer Ronsard. Enfin, des gens travaillaient ensemble, en réalité. Et texte et musique, du coup, le texte était lu, déclamé, et puis ensuite, on se disait « Ah ben, pourquoi pas cette mélodie là-dessus ?» Ils travaillaient comme ça. C'était pas on invente une mélodie, on met un texte par hasard. Non, c'était plutôt un texte, on met une musique parfaitement enracinée là-dessus. Et en fin de compte, cette pièce de Goethe, Le roi des Zaulnes, a été mise en musique par pas mal de compositeurs, dont ce Karl Löwe dont on peut parler. Voilà.
Et moi, Bruno, tu sais, je suis très, pardon, hein, très brut sur cet aspect-là, mais la langue allemande n'est pas celle qui me semble être la plus la plus fluide, ouais, la plus sexy. Je veux pas, non, je veux c'est pas faire la
langue,
de raccourci.
Alors, c'est l'avantage de la langue allemande par rapport à d'autres langues, notamment le français, c'est que c'est une langue accentuée. Donc, qui dit accent, dit appui, brève, longue, et choses comme ça.
Donc, plus intéressante.
Plus intéressante sur le plan musical, je dirais. Es ist genug. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose que j'ai dit. Mais ce que, alors qu'en français, on a quelque chose d'un peu plus comme ça, un peu plus égal. On appuie sur les finales. En italien, on a quelque chose de plus chantant naturellement. En russe également. C'est une très belle langue pour la musique vocale. Je fais une parenthèse. Et c'est vraiment tout à fait intéressant. L'allemand n'a pas ces caractéristiques au départ, mais a ce côté angulatoire.
Elle a des vertus, oui.
Angulatoire. Et de choses, peut-être des appuis plus longs, des consonnes plus marquées, qui donnent du relief aussi à une musique. Parce qu'il n'y a pas que la fluidité. On ne cherche pas que la fluidité. On peut chercher aussi l'angularité. Et ça, c'est donc elle est intéressante pour ça. L'anglais, curieusement, qui est extrêmement utilisé dans la musique actuelle, peut-être moins intéressant. Il y a beaucoup moins de répertoire.
Il n'y en a pas.
Pas tellement.
Bah, pas beaucoup. Bah,
pas
ouais,
beaucoup.
Il
y en a. Il y en a. Il y a Handel, il y a Purcell, bien sûr. Mais curieusement, c'est drôle. Cette langue qui s'est généralisée, qui est devenue la langue de tout le monde actuellement, c'était pas le cas avant. C'était plutôt le français, l'italien et l'allemand qui dominaient. Il y a très peu de répertoire en espagnol, très peu de répertoire portugais. Voilà.
Et pourtant,
il atteint évidemment.
On va faire une transition toute faite vers l'Inde, hein, où la langue première est l'anglais presque.
Alors actuellement, mais la langue pratiquée par les musiciens. Est-ce qu'on parle de ce concert du
samedi? Oui. Alors pour revenir quand même, hein, leader romantique allemand, ce sera le vendredi à l'église Saint-Ouen. On parle
à 20h.
De la cinquième édition du Sacre du Printemps. Une formule au billet pour chaque événement. Oui. Mais est-ce qu'il y a une formule complète?
Oui, il y a
Bruno?
Une formule plat dessert.
Ouais. Non, mais c'est une vraie question.
Alors il faut aller sur le site unsacredupritemps.fr où tout est indiqué. Alors le concert du lundi est donc indiqué complet, mais il y a une formule donc pour l'ensemble des concerts avec un tarif relativement, c'est la place d'une place de cinéma globalement pour un concert.
Et jusqu'à 15 ans gratuit.
Ouais.
Ça, c'est classe.
Oui,
c'est pas
sûr.
12 ans.
Non, c'est 15 ans. Et puis 15 ans et demi s'il le faut. Hein,
oui, non, mais j'entends. Voilà. Ouais. Voilà. Non, je souligne.
Ouais, bien sûr.
Et puis, non. Effectivement, il y a un pass festival.
Il y a un pass festival et puis tous les inscriptions sont là. Les billets sont mis à disposition du public. Les gens les récupèrent sur place au moment du concert. Donc voilà, tout est limpide.
L'anglais, l'Inde.
L'anglais, alors, on était là-dessus. Le concert du samedi, donc, nouveau partenariat, après la médiathèque, partenariat avec Aristide Briand, lycée d'État Aristide Briand. Moi, je suis très, très content parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de choses. Et c'est un lieu que je connais pour y avoir participé à des événements dans cette salle, la salle de conférence, la salle qui est au-dessous là, du bâtiment principal. Et une acoustique qui n'est pas une acoustique naturelle géniale, mais qui nécessite un peu de sonorisation. Donc ce sera le cas. Et un répertoire de musique classique indienne. Alors il faut savoir tout de même qu'il y a en Inde de la musique actuelle liée au Bollywood, choses comme ça, et puis cette musique de variété, quelquefois où l'anglais a pris la place, mais le sanskrit était une langue qui a été utilisée dans la musique traditionnelle indienne, et souvent, et pratiquement tout le temps, la musique indienne n'utilise pas de texte. La musique indienne fonctionne uniquement sur le nom des notes. C'est-à-dire que un raga. Le raga, c'est une forme musicale qui est un morceau musical. Tout à l'heure, on parlait de la suite. Là, on va parler du raga qui correspond à un état d'esprit, à un moment de la vie, à un moment du jour ou de la nuit, à une période de la...
C'est improvisé ?
Non. Ça donne l'impression de l'être, mais c'est comme le jazz. C'est-à-dire qu'il y a des grilles. Il y a ce qu'on appelle une échelle sur laquelle le raga est construit. Le raga, il y a une vingtaine d'échelles. Donc ça peut être... C'est une échelle. Mais ça pourrait être... Ou bien... Voilà. Et à partir de ça... tout le morceau se déroule. C'est-à-dire qu'il y a un bourdon, une note tenue, qui est faite par un instrument qui s'appelle tanpura.
Oui.
Et on connaît ça dans la musique indienne, une espèce de truc qui reste tout le temps comme ça, cette note-là. Mais je prends celle-ci aujourd'hui, mais ça pourrait être celle-là, hein. Ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de hauteur absolue. C'est un peu comme ça se présente, en fonction de l'interprète. Et l'interprète... En l'occurrence, très souvent le chanteur, parce que le chant est l'instrument roi, aussi dans la tradition classique indienne. C'est du répertoire de tradition orale, c'est-à-dire que la musique est partielle. Non, elle n'est pas écrite. Il y a des celles qui sont écrites ou qui ont été théorisées et réécrites par des musicologues, mais à l'époque, depuis le Moyen-Âge, je dirais, et même avant, la musique se fait... L'apprentissage se fait par tradition orale. Donc le maître fait ce que je viens de faire. Da 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 be da di. Et puis l'élève répète da be da di. Et puis progressivement, il y a
des percussions. Il y a des sonorités.
Exactement, bien sûr. Et ça peut durer un temps long.
D'accord.
C'est-à-dire que le temps et la virtuosité apparaît. Alors écoutons peut-être et on en parle après. Donc ça c'est un extrait d'un concert donné par les trois interprètes qui seront là donc samedi prochain, le Amrat Hussein Brothers Trio, qui est donc trois frères qui arrivent du Rajasthan, nord de l'Inde. Il y en a deux parisiens, qui habitent en région Tourangelle, et un autre qui arrive de là-bas et qui sont des musiciens, donc qui travaillent très régulièrement et qui sont, alors eux aussi ils vont vers des musiques plus modernes quelquefois ou plus contemporaines. Ils s'intéressent aussi à la musique ancienne européenne. C'est pour ça que je les ai rencontrés. Hein. Enfin, ce sont des gens qui sont assez ouverts, qui font les choses de manière traditionnelle. Et là, ils vont faire un programme avec trois grands ragas. Donc, avec des échelles, comme je les évoquais tout à l'heure, mais un petit peu différentes. Et puis, des pièces plus accessibles. Un chant soufi, un passage où ils évoqueront un instrument qu'ils utilisent, qui s'appelle le kartel, qui est une espèce de... Ce sont des castagnettes plates indiennes. Et il y aura une démonstration qui est absolument virtuosissime de
cet harmonium.
L'harmonium, c'est un instrument qui est arrivé en Inde au 19e siècle avec les prêtres, je pense, c'est de l'Angleterre. Qui ont voulu convertir tous les Indiens, et puis cet instrument qui est devenu l'instrument presque emblématique de l'Inde.
Mais complètement, c'est pour ça qu'il ne sera pas mis de côté.
Ah, pas du tout.
On écoute, Bruno, hein. Et ce sera à l'auditorium du lycée Aristide Briand d'Evreux, le plus gros lycée peut-être du département de l'Eure, et ça c'est important.
À 20h.
Que d'aller dans un lieu de savoir et de partage pour jouer et proposer ceci samedi 26 mars à 20h, dans le cadre du Sacre du Printemps. Yeah. Il y a bien deux frères dans ce trio.
Non, c'est trois frères même. C'est trois frères.
Ah d'accord, parce qu'il y en a un qui portait un autre nom.
Ouais, mais d'accord. Je pense que c'est peut-être un nom d'emprunt. Oui.
D'accord.
Je ne sais pas. Mais je crois qu'ils sont trois frères.
Rangmal, ce sera au lycée Aristide Briand, on l'a dit, dans le cadre du Sacre du Printemps, une proposition...
Plongé dans un autre univers.
Ouais, vraiment, contre-pied, vraiment. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, voilà, ça se sert d'un historique et d'un répertoire classique.
Oui, bien sûr.
D'une autre contrée, d'un autre continent.
Exactement.
Et soyons curieux, allons voir.
Mais c'est intéressant parce que j'ai fait un travail dans le cadre du partenariat justement avec le lycée et je suis intervenu dans les classes de terminale et première avec des élèves de option musique. Et on a travaillé sur le rapport entre la musique modale, justement les modes, les lignes mélodiques de cette musique indienne et le parallèle qu'on pouvait faire avec la musique du Moyen-Âge en France. Et c'était intéressant parce que les jeunes se sont passionnés pour ça, je crois. On a vraiment exploré un peu, essayé de voir un peu que c'est des mondes qui apparemment sont très loin, il y a deux continents, quoi. Mais il y a un rapport, il y a réellement un rapport, il y a une approche qui est commune, une utilisation par exemple de ce bourdon, qui est dessous tout le temps. Mais on l'a exactement dans ce qu'on appelle un organum en musique médiévale. Dans la musique du Moyen-Âge. Il y a la même chose. Les premiers exemples de polyphonie, c'est ça. C'est un bourdon, une note tenue, et puis on joue dessus. La cornemuse, quoi. Et en fin de compte, c'est à partir de ça qu'on peut tout d'un coup... que la musique vient. La polyphonie, l'empilement des mélodies, se construit à partir de cette base qui, au départ, presque est un petit peu... Peut-être une invention, je sais pas, quelqu'un dit, moi je tiens une note, moi j'arrive pas à chanter, je fais. Et puis l'autre. Et ça devient tout à fait intéressant.
En tout cas, très chouette, merci. Voilà. Avant-dernière proposition de ce Sacre du Printemps qui aura lieu le samedi 26, on l'a évoqué. Et puis le 27. On passe à quelque chose de très joyeux. Alors moi,
joyeux.
Non mais, alors je veux bien que tu développes deux secondes Requiem de Mozart. Moi, naïvement, je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas été voir sur des sites spécialisés. Je vois une messe écrite, une messe d'en revoir. C'est ça, défunt.
Tu as complètement raison.
C'est ça le Requiem.
Le Requiem, c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. Un texte, une musique funèbre. Une musique qui évoque le revoir qu'on dit à un défunt. En effet. Et là, il se trouve que un requiem peut être donc triste, évidemment, mais peut être aussi, puisque les gens croyants notamment peuvent imaginer, ou imaginent que de toute façon la vie n'est pas finie, que là-haut ce sera mieux. Après, c'est le talent du compositeur qui peut faire la différence. Hein. Et puis l'option qui est choisie. Il se trouve que là, on arrive sur une œuvre extrêmement connue du répertoire qui s'appelle le Requiem de Mozart. Requiem de Mozart, Mozart, le plus fameux de tous les compositeurs classiques, je dirais, vie très courte, 1756-1791. En 1791, il a une commande qui lui est faite d'un Requiem par le comte de Valsec, von Valsec, qui lui fait une commande pour une pièce, pour un Requiem. Bon. Il le fait pas parce qu'il est triste. Il le fait parce qu'on lui demande quelque chose. Il se trouve que Mozart, c'était quelqu'un qui vivait de la musique. Donc, on lui commandait un opéra, il écrivait un opéra. On lui commandait un requiem, il écrit un requiem. Il faut voir ça comme ça. Et il pense pas à requiem, il le pense pas différemment que quand il écrit la flûte enchantée ou quand il écrit un concerto pour clarinette. Il a son vocabulaire. Il a sa gaieté naturelle. Il est jeune, Mozart. Il meurt tôt, jeune. Et donc, c'est quelqu'un qui... La musique bouillonne en lui. Et ce qui fait que dans ce Requiem, il y a des moments peut-être un peu tristes. Il y a des moments dramatiques.
C'est ça que tu vas me dire.
Pardon ?
Mais pas que, mais
dramatiques quelquefois. Et puis des moments de grande jubilation et de joie. Alors, le Requiem n'a pas été fini. n'a pas été terminé de la main de Mozart. En fin de compte, il est mort avant. Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle Süssmayer, qui est un élève de Mozart, qui a fini le Requiem. Alors, la version qu'on entendra, qui va être donnée donc, par le chœur Arzuva, que je dirige à Évreux, avec quatre solistes, quatre chanteurs solistes, deux pianistes.
Oui, parce que j'avais vu, c'est une organisation, un effectif original.
C'est original, alors pas l'effectif original, parce que la partition d'origine est écrite pour orchestre. Mais très rapidement, il y a eu des adaptations du Requiem pour piano à quatre mains, deux pianos. Et là, c'est une version deux pianos. Et timbales. La partie de timbales est très importante et donne ce côté un peu majestueux, un peu dramatique au Requiem. Elle existe dans la partition d'orchestre. Et donc, c'est deux pianos à queue et timbales. Et on a une version qui, du coup, laisse une place un tout petit peu plus grande à la voix, forcément. L'orchestre 40 musiciens n'est pas là, donc les pianos sonnent évidemment très très bien. Mais il y a quelque chose d'un peu plus... Où la parole et du coup le sens du texte devient un peu plus dominant.
On sera encore à l'église Saint-Aurin.
Oui.
Bruno, on est pris par le temps. On rappelle que tu as été reçu aussi par Laurent dans le cadre de Tour de Piste, que cette émission a pris le temps pendant une heure aussi.
Ah oui, complètement, de décortiquer un peu la programmation.
D'évoquer et de vraiment
se plonger. Je crois qu'on peut la réécouter, oui.
Mais exactement, en fait, ce qu'il faut, c'est soyez curieux, mes auditeurs, auditrices, choper le podcast, relayez et soyez attentifs à la question. On rappelle, musique classique, de grandes œuvres, la musique vocale, la musique du monde, c'est ça un peu qui compose un sacre du printemps. Cette proposition de Requiem de Mozart, ce sera dimanche. Et dimanche, autre parallèle, parce que les endroits où on se retrouve se réouvrent et il y a des salles des fêtes. Je prendrai des exemples comme à Sylvain-les-Moulins où en fait il y aura un petit marché artisanal, c'est tout bête, mais où en fait on va trouver aussi des petits artisans qui vont montrer un peu leurs petites œuvres et leurs petits bricolages ou leurs belles propositions, que ce soit de la sculpture pour bois, des girouettes en zinc, de la peinture sur porcelaine, des objets en résine, des objets décoration en fonte. Bref, plein de petits artisans qui ont besoin aussi de se montrer à vous. Ce sera Sylvain-les-Moulins, par exemple, entre 10h et 18h. C'est en totale gratuité. On parle d'une commune près de Danville. Nous, on parlait du Sacre du Printemps qui se déroule sur Évreux. Mais il y a la médiathèque qui est en partenariat. C'est complet, mais c'est quand même la classe à aller là-bas. Et puis, renseignez-vous auprès d'eux parce qu'a priori, l'excellente violoncelliste qui viendra animera un petit masterclass entre guillemets.
Exactement. Et Marine Fribourg également le vendredi à 15h.
Ah mais ça on l'avait pas dit.
Non,
donc, merci. Tu l'avais juste évoqué.
Voilà, c'est ça. Le vendredi à 15h pour les enfants un petit peu plus grands. Voilà.
Eh ben, on finit avec ce Requiem de Mozart.
Oui, le Dies Irae du Requiem de Mozart, version piano chœur.
Merci d'être venu, Bruno. Voilà, un bel événement à venir. Soyez curieux, amis auditeurs, auditrices. Quand je vous le dis, j'insiste. Allez-y, sortez, allez vous confronter à des choses qui sont pas au départ peut-être de votre repère ou de votre habitude. Bref, soyez curieux, allez-y. En tout cas, nous, on finit avec cette œuvre. Merci beaucoup, Bruno, pour
être venu
ce matin. C'était un plaisir. C'est le pire à cet avenir. On est des dingues, on passe de tout et on aime à se le faire.